Eh bien, décidément, c'est un peu particulier pour reprendre le direct sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous. Je dis que c'est un peu particulier parce que juste après Enrique, on se disait bonjour, salut, allez, installe-toi, puis on démarre tout de suite après. Mais là, ça fait 5 minutes qu'on est en train de nettoyer ce studio avec du gel hydroalcoolique, des lingettes, on nettoie tout. Mais c'est parce que c'est maintenant l'époque qui veut ça. Et du coup, on a un petit peu sous-estimé ce temps de transition. Bonjour à tous. C'est Biotine, l'émission de science qui revient sur l'antenne de Graphite. Nous sommes en direct et nous sommes le 13 juin. C'est samedi et pendant une heure, on va faire le point sur l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis accompagné de Carole et tous ceux qui connaissent Carole connaissent, je dirais, sa ponctualité, bien sûr. Donc, elle n'est encore pas prête. Je viens d'allumer ton micro,
bonjour,
Carole. Bonjour,
Jean-Noël.
Carole.
On vient d'installer. Si, je finis de désinfecter, mais je suis là. Je suis debout encore, mais
oui,
je vais m'installer. Ça
assez,
va se faire.
C'est assez particulier. Effectivement, pendant toute cette période-là, depuis 3 mois, il n'y a pas eu d'émission Biotine. Tout simplement parce que techniquement, nous, on n'avait pas la possibilité de le faire, même si Graphite n'a pas arrêté de vous accompagner pendant cette période. Il y a eu de nombreuses émissions. Et toi, Enrique, je crois que je t'ai écouté samedi dernier reprendre. Ça m'a donné envie. Il faut à tout prix que je revienne, même s'il nous reste que 3 émissions d'ici la fin de cette saison. Mais en tout cas, on voulait quand même un petit peu faire le point sur l'actualité scientifique. Parce que franchement, cette période... Alors, personnellement, il y a eu une frustration particulière de ma part. C'est que je n'ai pas pu vous accompagner, chers amis auditeurs, pendant cette période un peu compliquée. Parce que franchement, l'émission Biotine, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe sur l'antenne de Graphite. Elle vous a donné, je l'espère, toutes les clés pour comprendre cette période qui vient de se passer, qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a entendu tout et son contraire pendant 3 mois. Il y a eu un emballement sur plein de choses, sur plein de gens, sur plein d'informations. Ça a été la cacophonie et la science, d'un point de vue général, n'a pas donné, à mon avis, une image vraiment intéressante et claire pendant cette période-là. Mais en fait, il ne faut pas se leurrer. Vous le savez, pour ceux qui écoutent cette émission depuis un certain temps, on le dit régulièrement. Donc là, vous avez eu un exercice pratique, quelque part, avec ce coronavirus. C'est que le temps de la science n'est pas du tout le temps de notre société. Nous, on vit dans une société où il faut avoir tout, tout de suite, dans l'instant. On veut toutes les réponses, on veut être sûr de tout. En plus, il y a le principe de précaution et ainsi de suite. Donc il faut trouver des réponses et on demande à la science... d'un point de vue général, de nous donner ses réponses. Mais la science, elle n'a pas un côté instantané, elle n'a pas un côté immédiat. Elle doit prendre son temps. Carole, tu connais très bien ce principe de tout ce qui est recherche expérimentale. La science, elle cherche, elle a des hypothèses, elle les teste. Des fois, ça ne marche pas, elle refait, elle revient, et ainsi de suite. On a tout un temps qui doit s'installer, et on le dit très régulièrement quand on développe ces différents articles que l'on parle avec vous dans cette émission, il y a toute une démarche expérimentale à mettre en place. Donc effectivement, si on doit prendre une décision le 15 mars, eh bien ce n'est pas en engageant des recherches le 15 février qu'on aura une réponse. Enfin, je veux dire, ça semblait tellement évident, mais il y a eu un emballement totalement ubuesque au bout d'un moment que je trépignais, moi, dans mon canapé, évidemment, mais je trépignais en disant mais c'est pas possible. Et je me dis, j'espère que les auditeurs de Biotine, tous les fidèles qui nous accompagnent, ont eu le réflexe de se dire oui, alors attention. Et puis, on le dit aussi assez souvent, enfin, je veux dire, ça reste, on parle de la science, ce qui veut dire derrière des scientifiques au sens large. Ça reste des hommes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus une vertu de la science. Mmh. On parle très souvent dans cette émission de tous les, comment dire, il y a du pouvoir derrière, il y a de l'argent derrière, il y a
les intérêts des laboratoires.
Il y a des intérêts. Il y a aussi la politique au sens large qui doit aussi prendre des décisions. Donc il y a tout un contexte qui doit être pris en considération. La science apporte une vérité, mais dans le cas de la recherche médicale, la difficulté de la recherche médicale, c'est par rapport à la physique où quelque part c'est assez dogmatique et quelque part on décide que 1 et 1 égale 2. Autant en recherche médicale, c'est loin d'être le cas parce qu'on est dans une démarche expérimentale actuelle. Donc la médecine peut se contredire, effectivement.
Et je voudrais ajouter que beaucoup de scientifiques qui venaient donc en plein tôt, puisqu'il y avait un peu cette blague qui circulait, mais il y avait plus de scientifiques sur les plateaux de télé que de...
Je trouve ça extraordinaire. On n'a jamais vu autant... En plus, on a appris plein de choses. Des épidémiologistes, des virologues, des infectiologues, des responsables d'urgence. Tu te dis, je pensais qu'il y avait autre chose à faire en ce moment que d'être sur des chaînes infos. Mais effectivement, derrière, il y a tout un... Et puis voilà, il y a toute une guerre également qu'il faut prendre en considération, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts derrière, il ne faut pas se leurrer.
Évidemment. Alors après, ils ont fait quand même beaucoup de vulgarisation scientifique, justement. Il y avait un message aussi à faire passer aux gens. Et si on écoutait quand même entre les lignes, certains signalaient bien que quand on fait de la recherche comme ça, dans la précipitation, on fait aussi beaucoup d'erreurs. Et on peut se contredire. Donc certains le disaient de manière très claire. On sait que
bien
ça fonctionne comme ça. Après, forcément, dans ce type de crise, les gens veulent des réponses rapides. Et c'est ce qui entraîne cet emballement. Donc, encore une fois, je pense qu'on apprendra encore beaucoup de choses sur ce virus. Mais à la fin des études, quand on aura eu le temps d'analyser tranquillement les résultats. Donc voilà, il faut, à mon avis, encore une fois, il ne faut pas oublier en effet cette échelle et ce temps long de la science pour trouver les bonnes réponses.
Ça me fait bizarre de te voir derrière ce plexiglas. Tu
es... Alors, il faut préciser pour les auditeurs, en fait, ils ont installé dans le studio donc des vitres en plexiglas pour qu'on soit bien séparés.
La direction de Graphite nous a fait un studio nickel, impeccable.
Un studio geste barrière. Mais par contre, j'avoue que...
Non, on n'est pas habitué.
Alors déjà, je suis trop loin, en fait. Là, je me sens pas bien, je suis trop loin.
Tu es trop loin de moi, je sais ce que ça fait.
Et puis, oui, non, c'est vrai que c'est étrange. Mais on va y arriver. Et puis, on va essayer de... justement, revenir sur l'actualité scientifique et aussi sur toutes les autres choses dont on a oublié de parler pendant cette période.
En fait, pendant 2 mois, pendant cette période de confinement, on n'a parlé que du coronavirus et on n'a pas parlé d'autres choses, et notamment d'un point de vue scientifique, comme si la science était arrêtée. Alors, on a pris un peu le parti pris avec Carole de se dire, pour les 3 émissions qui nous restent d'ici la fin de cette saison, de parler du reste aussi, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Peut-être, non, j'enlève une chose, on a parlé de l'espace avec, bien sûr, le lancement de cette fusée. C'est un petit peu
mais
le
c'est
seul
arrivé
moment.
À la fin. C'est le seul.
Et ça nous a fait un bien fou parce qu'au moins on parlait d'autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu un exercice pratique que nous avons eu là pendant 2 mois grâce au coronavirus. Donc maintenant, vous avez toutes les bases. Vous savez comment réagir dans ce genre d'épidémie mondiale. 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct exclusivement par SMS, 06 95 065 026. Nous sommes le 13 juin et nous n'allons pas déroger à la règle de l'éphéméride.
Bien sûr.
Parce que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et notamment dans l'histoire, dans le passé. 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Ça a été adopté par l'ONU en 2014, donc finalement c'est assez récent. C'est une anomalie génétique et héréditaire qui va affecter la pigmentation et qui se caractérise en fait par un déficit de production de mélanine. Donc cette maladie fait partie de ce qu'on appelle les photogénodermatoses. Alors c'est simple, pour une fois on peut comprendre, photo, lumière, génogénétique, dermatose, la peau, c'est donc bien une affection génétique de la peau qui est aggravée par la lumière solaire. Donc c'est une journée internationale aujourd'hui de sensibilisation pour l'albinisme. En termes de science et technique pour l'éphéméride, le 13 juin 1955, la découverte de la mine de diamants qui a été, voilà, une découverte de mine de diamants, comme ça en 1955, ça fait plaisir. En 2010, il y a 10 ans, la fin d'une mission de la sonde japonaise Hayabusa qui avait donné à l'époque, on en avait parlé, c'était un petit peu le début de biotine, pas mal de choses, pas mal de découvertes. Si on fait l'éphéméride en se disant, mais qui est né un 13 juin ? Eh bien, on peut parler de Giovanni Antonio Maggini. Qui est-ce ? Il est né, tu le penses bien, en Italie, et notamment le 13 juin 1555, donc il y a déjà longtemps. Et tu sais qu'à l'époque, ils étaient un petit peu multicartes. Donc lui, il est astronome, astrologue, cartographe, mathématicien, et puis également universitaire, tant qu'à faire, on fait la totale. En fait, il a été choisi devant Galilée en 1588 pour occuper la chaire de mathématiques de l'université de Bologne. Et Maggini, il a soutenu une vision un peu géocentrique du monde. C'est-à-dire que c'était à contre-courant totalement du système qui avait été proclamé par Copernic. Et Maggini a conçu sa propre théorie planétaire, c'est-à-dire un système qui est composé de 11 sphères tournantes. Il a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Il a conçu des tables de trigonométrie. Alors ça nous rappelle des grands souvenirs. Mais des tables extrêmement précises. On est au 16e siècle quand même. Il a aussi travaillé sur la géométrie de la sphère et ses applications donc à la trigonométrie, pour lesquelles il a inventé des dispositifs calculatifs au 16e siècle. Il a également travaillé sur les problèmes des miroirs et il a publié sur la théorie des miroirs sphériques concaves. Quelque chose qu'on se sert tous les jours, effectivement. Au 16e siècle, il développe déjà ça. Il y a des gens qui sont passionnés, ils ont tellement raison. Décès beaucoup plus récent, le 13 juin 1946 de Louis Martin. médecin bactériologiste français. Tiens, bactériologiste, ça nous avait manqué. On n'en a pas eu récemment. Et en fait, Louis Martin a travaillé sur les travaux sur la diphtérie qui ont permis justement de faire progresser la recherche sur cette maladie. Il faut savoir qu'en fait, la diphtérie tuait 3000 enfants par an en 1924. 20e siècle, voilà, on a l'impression que ça a totalement disparu. Oui, effectivement, mais au 20e siècle, des travaux devaient être faits. Louis Martin a bossé dessus. Il a travaillé avec Émile Roux. Alors, on connaît plus le nom d'Émile Roux, de docteur Roux, qui est un nom qui est plus resté dans la postérité. Louis Martin, un peu moins, mais en tout cas, lui également, il avait consacré aussi sa vie dans la recherche sur la diphtérie. Voilà, c'est l'éphéméride de ce 13 juin 2020, 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir par SMS, on fait peut-être un point rapide, et puis après, c'est promis, on ne parle pas du coronavirus, mais...
J'avais promis que je n'en parlerais pas, et bien sûr, j'ai trouvé un article qui m'a quand même intéressé.
Mais tu n'as que ça, en fait.
Oui.
Tu n'as que des articles qui t'intéressent sur le coronavirus, sauf qu'ils se contredisent. Mais là, tu fais quelque part une synthèse.
Alors, c'est une synthèse, et on ne va pas s'y attarder trop longtemps, sur les essais cliniques, donc ces premiers essais cliniques qui ont été menés sur le Covid-19. Et donc, ça a été publié dans Science et Avenir très récemment. Ces essais, visiblement, manqueraient de rigueur. Alors, on le sait, la première vague d'études, elle a été lancée courant du mois de mars. Et on pointe désormais toutes les lacunes de ces multiples études. Alors, on le sait, le monde a été à l'arrêt pendant plusieurs mois. La recherche a été sur le pont pour trouver des traitements, un vaccin, comprendre la maladie. Et les scientifiques et les médecins se sont penchés sur tous les aspects du Covid-19. Et bien sûr, ils travaillent toujours. Et donc, dans cette période inédite, eh bien, il est crucial que les travaux réalisés soient évidemment le plus rigoureux possible. Mais visiblement, la première vague d'études cliniques lancée fin mars 2020 présente donc de nombreuses lacunes. Et ça, c'est selon une étude qui a été réalisée par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et publiée dans la revue spécialisée British Medical Journal. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que la majorité des essais cliniques pour des traitements contre le Covid-19 lancés à la fin mars ont des caractéristiques qui limitera largement leur valeur dans la compréhension d'une potentielle molécule. Pour cela, ils ont passé au crible 201 essais cliniques pour des médicaments ou du plasma enregistrés aux États-Unis sur le site clinicaltrials.gov ou au registre d'essais cliniques de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ces travaux, qu'est-ce qu'on leur reproche en fait ? Déjà, donc un tiers des essais ne mentionnait pas clairement quelles étaient les conditions de réussite de l'étude, ce qui est quand même une notion cruciale pour déterminer comment est-ce qu'on conduit son étude et afin de savoir si la molécule testée elle est considérée comme efficace ou non. Près de la moitié des études comprenaient moins de 100 patients. Or, on sait que plus une étude comprend un grand nombre de participants, plus ses résultats seront précis. Et enfin, deux tiers des études n'ont pas été réalisées en double aveugle. On sait, ça a fait débat dans les médias, je ne reviens pas dessus. Mais c'est-à-dire qu'elles ne masquaient pas les groupes auxquels appartiennent les patients, le groupe placebo et le groupe prenant un médicament. Puisqu'en général, on a ces deux bras de front. Alors, en raison de ces faiblesses, pour le premier auteur de l'étude, qui s'appelle Emal Kumar Mehta, eh bien, nombre de ces études ne fourniront probablement que des éléments préliminaires. Et compte tenu de l'urgence d'identifier des preuves fiables sur les traitements potentiel contre le Covid-19, c'est un cas où évidemment on aurait aimé avoir à préciser que, ne pas avoir justement à préciser que des recherches supplémentaires seront nécessaires en raison de ces lacunes de conception des essais de base et donc de leur nombre trop faible patients. Alors, ces études qui ont été donc analysées par la Johns Hopkins University, eh bien la vaste majorité s'était fixée pour but d'évaluer les traitements déjà existants pour d'autres maladies et qui pourraient potentiellement être réutilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Alors, ces traitements peuvent être rapidement détournés pour être utilisés, mais même s'ils ont été pour l'instant, donc, il y a 92 molécules et anticorps présents dans le plasma qui ont été évalués, on ne sait pas du tout si ça pourra donner quelque chose, et on a déjà vu dans les médias que la bataille fait rage. Mais en tout cas, pour l'instant, rien, c'est vraiment extrêmement préliminaire, rien qui semble pouvoir avoir une véritable action. Alors, même si, voilà, comme le disent les chercheurs, il y a une réelle urgence à faire de la recherche sur le Covid-19, ils insistent en fait sur justement le fait que c'est une période où la science doit être rigoureuse afin de pouvoir correctement influencer les politiques de santé et les décisions médicales. N'importe quel traitement évalué comme efficace et sans danger grâce à des essais solides pourrait être utilisé pour des millions de personnes. Et justement, voilà, on a vu ce qui s'est passé en France pour, enfin, au sujet de la molécule d'hydroxychloroquine, où extrêmement rapidement, voilà, le gouvernement a pris certaines décisions. Donc je ne rentre pas dans le débat. Mais c'est vrai que, justement, voilà, on a envie d'appuyer sur le fait qu'il faudra être extrêmement rigoureux et surtout, je pense, extrêmement prudent. Et que malheureusement, toute cette vague d'essais prometteurs dont on entend encore régulièrement parler dans les médias ne donnera certainement que des résultats extrêmement préliminaires. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est un débat sans fin, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je pense que même si on a volontairement décidé de ne pas trop parler du coronavirus d'ici fin juin, il est certain que si Biotine revient à la rentrée de septembre sur l'antenne de Graphite, on va en reparler. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a tellement de choses dont on attend les réponses. Donc du coup, on les aura, mais un peu plus tard. Il faut être patient, c'est tout.
Il faut être patient et apprendre à vivre avec le virus.
Et apprendre à vivre avec le virus, oui, on a un petit peu l'impression qu'il y a un certain relâchement. Alors du coup, depuis hier, il y a quelques alertes qui nous viennent en disant « Oh, attention, il y a des départements où ça reprend, même en Chine ça reprend, il y a un confinement et ainsi de suite. » Oui, parce qu'il faut maintenir la tension un petit peu. Parce que les gens, il y a un relâchement, mais même au niveau du suivi de l'information, donc il faut qu'ils reviennent derrière les écrans, donc il faut un petit peu remobiliser et on trouve comme ça quelques solutions, parce qu'aujourd'hui, on n'en sait rien si ça revient, personne ne le sait. Et les modélisations ont également dit tout et leur contraire. Donc on verra, on suivra, et puis on vous tiendra informés, bien évidemment, dans cette émission. Merci Carole, on va parler du reste de l'actualité scientifique.
Évidemment, enfin.
Alors, tu m'as dit, en arrivant dans ce studio, alors attention, j'ai des auditeurs qui m'écoutent, ma famille, ainsi de suite, donc choisis très bien tes articles. Donc, j'ai dû faire un choix d'articles, je dirais sérieux, à la limite austère et qui ne prête à aucune
je suis certaine
interprétation
que
scabreuse
je
de ma part.
Je suis certaine que tu as su trouver de quoi nous intéresser.
Mais en fait, on a parlé il y a quelques temps, il y a peut-être même quelques années, j'ai pas eu le réflexe de regarder, je m'en excuse, de la greffe de peau et de la production de peau humaine. Et, pardon, c'est ton œil sur l'article qui me fait rire. Mais c'est très sérieux, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant, parce que en fait, ça fait déjà 40 ans que des chercheurs essayent de reconstituer au plus près la peau humaine afin, bien sûr, ce qu'on rigole, mais c'est pas du tout drôle, c'est de soigner les brûlures, bien évidemment,
oui,
de tester aussi des médicaments, et puis on peut également aussi tester des produits cosmétiques. Ça éviterait, en fait, de faire des tests sur des animaux. Donc, effectivement, la finalité est intéressante. Et la plupart des techniques qui sont utilisées pour essayer de produire la peau humaine utilisent des cellules souches que l'on multiplie en laboratoire pour fabriquer la peau. Mais finalement, on se rend compte que la peau, c'est pas simple. D'ailleurs, la peau en elle-même, c'est très très complexe. C'est un assemblage vraiment particulier de plusieurs cellules. Il y a des nerfs, il y a de la graisse, il y a des cellules pigmentaires, il y a plein de choses. Et donc, il faut essayer d'avoir la capacité de ressentir la chaleur, le toucher, de pouvoir transpirer, ainsi de suite. Donc, on n'arrivait pas à avoir l'ensemble de ces éléments. Et en plus, il manquait dans la peau qu'on arrivait à produire, il manquait les poils. Eh bien, des chercheurs du laboratoire de recherche de l'hôpital pour enfants de Boston publient aujourd'hui, ces derniers jours, hein, c'était cette semaine, une étude dans la grande revue Nature, dans laquelle ils affirment avoir réussi à produire des espèces de mini-peaux humaines avec des glandes sébacées et des follicules pilaires. Follicules pilaires, donc des poils. Et l'équipe a le planché depuis des années sur cette réalisation. Elle avait publié il y a 2 ans déjà un article sur de la peau qui avait été obtenue à partir de cellules souches de souris. Donc on en avait parlé en 2018 déjà dans cette émission, je m'en souviens. Et en fait, leur découverte, elle est un petit peu le fruit du hasard. Le chercheur Karl Koehler, il essayait de reproduire des cellules auditives. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est essayer de reconstituer le système d'oreille interne. Donc on est vraiment totalement éloigné de la peau en tant que telle. Son objectif était de créer des cellules sensibles au son. avec l'idée de pouvoir tester des thérapies géniques contre la perte auditive et les troubles de l'équilibre. Donc on est vraiment dans un domaine de recherche bien précis, bien particulier. Et il a essayé de tester un espèce de cocktail chimique, nous dit-on. On met un petit peu de facteurs de croissance, on met un petit peu de molécules, on mélange tout ça. Et finalement, on s'est aperçu que quand il voulait produire ce tissu de l'oreille interne, on produisait en même temps une espèce de tissu cutané. Et on s'est rendu compte que plus on cultivait cette peau, qu'il y avait des poils qui apparaissaient. Alors au départ, ils se sont dit, oh là, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas avoir des poils à l'intérieur de l'oreille interne, donc on va essayer de couper ça. Donc ils rasaient. Enfin, c'est totalement...
On imagine les expérimentations.
Tu vois, avec un rasoir pour essayer de raser les poils de cette peau parce qu'on n'en voulait pas. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais attends, finalement, d'un point de vue oreille interne, on n'arrive pas nécessairement à trouver une bonne solution. Par contre, ça peut être intéressant peut-être de bien développer ce principe-là pour avoir de la peau humaine qui est tous ses composants dont les poils. Et on s'est rendu compte qu'au 70e jour de culture, les poils donc arrivaient à la surface. Donc ça n'apparaissait pas tout de suite. C'est pour ça qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils s'en sont rendus compte un peu tardivement. Et en plus, il y avait également ce qu'on appelle des mélanocytes. Donc la mélanine, c'est-à-dire qu'on avait des cellules qui étaient capables de pouvoir colorer la peau également. Donc c'était assez formidable. Il y avait également de la graisse qui apparaissait, il y avait les nerfs sensitifs qui apparaissaient, et il y avait aussi ce qu'on appelle les cellules de Merkel, aucun rapport avec la chancelière allemande également. Les cellules de Merkel, c'est celles qui sont impliquées un petit peu dans la sensation du toucher. Donc on arrivait en fait à avoir une peau humaine qui réunissait tous les composants, et c'était totalement intéressant. Au bout de 140 jours de culture, on a pu implanter cette peau chez des souris, et on s'est rendu compte que les souris, elles ont pu ensuite continuer à développer ces poils qui allaient jusqu'à 5 mm, donc c'était quand même pas anodin. On va pouvoir ensuite faire des essais sur l'homme. La chose qu'il va falloir veiller, comme à chaque fois qu'on parle de greffe, c'est essayer d'éviter tous les rejets qui peuvent avoir lieu. Donc il va falloir essayer de surmonter cet obstacle du rejet immunitaire. Mais en tout cas, on arrive vers quelque chose d'assez bien élaboré qui va avoir des impacts vraiment intéressants, notamment chez les grands brûlés, parce que du coup, on a une peau plus réaliste, entre guillemets, même visuellement. D'un point de vue physiologique, c'est important d'avoir tous ces éléments, mais même visuellement également, c'est totalement important. Et donc voilà, c'était une information qui a été publiée cette semaine, et je me suis dit, Carole, parler de peau avec des poils ne pouvait que t'intéresser, c'est pour ça que j'ai choisi cet article aujourd'hui. De quoi nous parles-tu? 06 95 065 026 pour ceux qui souhaitent réagir sur cet article. Alors, ou sur ça, plein d'autres choses.
Tout à fait, sachant que là, c'est toi qui verras les messages, parce que vu la distance à laquelle on est placé dans le studio, j'ai aucune chance d'accéder.
Surtout que tu es pile au coin du plexiglas, bien que je te vois double.
Ouais. Ah.
Ce qui est bizarre.
Est-ce que c'est mieux
avoir deux Carole dans un studio,
c'est peut-être beaucoup.
C'est un privilège.
Ah bon, d'accord.
Ouais, ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez.
Alors, je reviens toujours sur l'actualité de la fin du mois de mai, puisque on l'a abordé au début de l'émission. Hein. On a suivi ce feuilleton de SpaceX avec le lancement de cette fusée et ces deux astronautes qui ont rejoint la Station Spatiale Internationale. Donc, je voulais faire un petit point et retracer un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez un peu guetté, chers auditeurs, le ciel, parce que j'avais regardé les articles qui expliquaient en fait à quel endroit du ciel on pouvait essayer d'apercevoir. Donc, c'était le 30 mai, hein, la fusée. Malheureusement, il faisait nuit assez tard et plutôt dans le nord de la France, c'était pas évident. Donc, mais par contre, il y avait des cartes assez précises où on pouvait tenter de l'apercevoir. Je n'ai pas réussi, mais peut-être certains auditeurs ont pu l'observer.
Peut-être.
Je crois que c'était difficile en France. Il y avait d'autres endroits du monde où c'était plus facile. En tout cas, petit rappel déjà, c'est que depuis 2011, les astronautes américains dépendaient des Russes pour aller en orbite. Et donc, c'était quand même un événement assez incroyable. C'était prévu au départ le 27 mai, hein, que justement, deux astronautes américains partent pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une capsule et d'une fusée made in America et conçue surtout par la société d'Elon Musk qui fait tant parler d'elle. Donc j'ai compilé comme ça plusieurs informations qui viennent du site du Monde. Alors sur le complexe de lancement numéro 39 du Centre Spatial Kennedy, eh bien le pas de tir qui a vu décoller les Saturn V des missions Apollo et les navettes spatiales américaines, eh bien on a posé une longiligne fusée Falcon 9 de la société SpaceX. Près d'elle, une tour sobrement habillée de noir dont le sommet a été relié par une passerelle à la tête du lanceur. Et c'est par là que les astronautes de la NASA, Robert Behnken, 49 ans, et Douglas Hurley, 53 ans, qui ont tous deux déjà volé deux fois, eh bien ils ont accédé à la capsule Crew Dragon installée en haut de la Falcon 9.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas si jeunes que ça, entre guillemets.
Alors non, et quand on regarde, je me souviens quand on avait suivi justement la mission de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, il y avait aussi, au niveau des autres membres de l'équipe, des gens qui avaient déjà un certain âge. En fait, déjà, il faut extrêmement longtemps pour se former, pour pouvoir réaliser ces missions. Et j'ai aussi l'impression que l'expérience, après, compte. Donc après, j'imagine qu'il y a quand même un âge limite et qui doivent quand même être, c'est peut-être leur dernier, mais il y a des astronautes qui sont assez âgés et qui continuent de faire des vols dans l'espace. Hein.
Bah, ils sont assez âgés, mais alors d'un point de vue physique et physiologique, ils tiennent le coup quand même.
Enfin, bravo, oui. Après, c'est des entraînements qui sont depuis toujours, j'ai envie de dire. Enfin, ils s'entraînent depuis des années et des années. De toute façon, c'est surveillé tout ça. Mais oui, c'est assez fascinant.
C'est assez fascinant.
Et d'ailleurs, je conseille, j'en profite justement. Alors, j'ai pu regarder énormément de reportages pendant tout le confinement. Il n'y avait que ça, voilà. Peut-être comme tout le monde. Et il y a eu sur France 3 un super reportage justement avec Jamy Gourmaud de C'est pas sorcier, mais maintenant c'est l'émission Le Monde de Jamy. Et justement accompagné par Thomas Pesquet sur plein de choses autour justement de la vie des astronautes, comment est-ce qu'on se prépare, toute la recherche qui est faite pour les nouvelles combinaisons, pour de futurs vols habités sur Mars. Et c'était passionnant. Et ce qui était génial, c'est que justement Jamy et l'autre présentatrice en fait pouvaient réaliser les essais, c'est-à-dire qu'on leur a fait mettre les combinaisons, on leur a fait faire les entraînements. J'avoue, c'était incroyable, donc je le conseille. Et ça nous permet en fait un petit peu de nous projeter et de s'imaginer ce que peut être ce genre de vie et ce que peut être peut-être ce qu'ont ressenti ces deux astronautes lors du lancement. Alors le premier donc n'a pas fonctionné, hein, comme je le disais, parce qu'il y a eu donc des mauvaises conditions météorologiques au niveau du centre spatial Kennedy. Donc voilà, il a été interrompu. Donc on imagine hein, toutes les procédures extrêmement lourdes. Il a fallu dire non, c'est pas aujourd'hui, vous ressortez. Et ça prend pas 5 minutes, hein, c'est quand même très long au niveau des procédures. Et finalement, le décollage a eu lieu avec succès le 30 mai au soir pour atteindre ensuite la station, donc c'était un samedi, pour atteindre la station spatiale internationale le dimanche dans l'après-midi. Donc la fusée a pu profiter d'une éclaircie justement pour décoller à 15h22 heure locale, et c'est donc, nous ça correspondait à 21h22 heure de Paris, et elle a été placée en orbite sans encombre, hein, donc avec la capsule Crew Dragon pour son premier vol habité et le premier lancé par les États-Unis, comme je le disais, depuis 2011. Alors, après avoir accompli la tâche d'arracher les deux hommes à la gravité terrestre, le premier étage de la fusée de 70 mètres s'est séparé comme prévu et est revenu se poser à la verticale sur une barge au large de la Floride. C'est bien fait quand même. Hein. Et donc, parce que oui, l'une des spécificités de la société SpaceX, c'est de récupérer de cette manière ses lanceurs. Puis, le second étage de Falcon 9 a placé Crew Dragon sur la bonne orbite en direction de la Station Spatiale Internationale qui vole à plus de 400 km au-dessus des océans et à plus de 27 000 km/h. Et justement, alors voilà, il y a eu des images en direct de la caméra qui diffusaient les images de l'intérieur de la capsule, donc montrant les deux hommes attachés dans leur siège pendant leur ascension supersonique. Et on a aussi vu des images de l'arrimage de la capsule à la Station Spatiale Internationale, justement, où, entre guillemets, on a l'impression dans le visuel que c'est très lent, alors qu'il faut imaginer que c'est à 27 000 km/h et qu'il faut réussir à s'ajuster. Ça rappelle un peu le film Interstellar, pour ceux qui l'ont vu, où je trouve qu'on retrace bien ça.
C'est une prouesse technique extraordinaire. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile.
Alors oui, parce que
c'est parce que c'est techniquement extraordinairement bien maîtrisé que ça apparaît facile.
Oui, et que là finalement, il s'agit d'une mission qui peut sembler un pas assez modeste dans l'exploration spatiale, puisque Bob et Doug, ils ne vont aller ni sur la Lune, ni sur Mars. Oui, ils ont des petits surnoms, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et voilà, ils vont seulement en fait dans la vieille Station Spatiale Internationale où Russes et Américains et d'autres vont et viennent depuis 1998. On imagine quand même à cette époque-là, c'était assez extraordinaire. Alors pourtant, la NASA y voit une révolution puisque SpaceX va redonner aux États-Unis et donc aux Américains un accès à l'espace low cost, moins cher que ses programmes précédents. Puisque pour 3 milliards de dollars accordés depuis 2011, SpaceX a entièrement développé un nouveau taxi spatial et promis à donc, sa cliente 6 allers-retours vers l'ISS. ce qui fait que visiblement c'est pas cher. Et elle a battu le géant Boeing, dont la capsule Starliner a raté un vol d'essai à vide en 2019. Donc, c'est quand même ça qui est assez incroyable. Il y a une mythologie autour de SpaceX, d'Elon Musk, et c'est assez incroyable parce qu'en fait c'est ça aussi que j'ai retrouvé. Il ne connaissait rien aux fusées quand il a fondé SpaceX en 2002. C'est assez incroyable en espace d'un temps aussi court. Ses trois premiers lancements ont échoué. Une fusée a explosé au sol avec un précieux satellite dans sa coiffe. Une autre peu après le lancement avec un ravitaillement pour l'ISS. Et l'an passé, la capsule Dragon a elle-même explosé lors d'un test des moteurs au sol. Parce qu'en fait, ce programme aurait dû commencer en 2017. Donc, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi malgré toutes ces difficultés. Finalement, les responsables de la NASA ont donné leur accord pour confier à SpaceX deux de ses astronautes. J'espère qu'ils avaient une bonne assurance. Ils parlent de ce partenariat dans des termes extrêmement, bien sûr, laudateurs. Hein. La responsable des vols commerciaux habités a évoqué les miracles accomplis par la collaboration des deux équipes. On imagine le samedi 30 mai, dans la mythique salle d'allumage du centre Kennedy, l'émulation qu'il y a dû y avoir. C'est pas un homme de la NASA qui a donné le go, mais le directeur de lancement de SpaceX, Michael Taylor. Les officiels de l'agence spatiale américaine n'ayant pas de rôle formel dans le compte à rebours. Donc on voit aussi
Bien sûr, c'est ça aussi qui était totalement inédit.
Exactement. Et on voit justement la transition qui se passe avec toute cette idée des vols commerciaux, justement, puisque l'idée, quand même, après, c'est d'acheminer, qu'il y ait des acheminements déjà réguliers donc depuis la Floride, et aussi peut-être faire voyager des passagers privés en orbite, voire dans la Station Spatiale Internationale, peut-être dès 2021.
Eh bien écoute, on suivra cette aventure. De toute façon, on suit cette aventure Elon Musk depuis un bon bout de temps sur l'antenne de Graphite. Hein. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais effectivement, c'était un petit peu l'actualité importante d'un point de vue scientifique. Enfin, importante et surtout, je veux dire, enfin, tu en as plein les yeux aussi. C'est ça qui était intéressant dans la période que l'on vivait. Nous, on était confinés chez nous et on en voit donc Bob et Doug se confiner dans la Station Spatiale Internationale. On s'est dit, les pauvres, franchement. Mais bon, ça faisait rêver quand même. Tu t'appelles Bob, tu t'appelles Doug, tu t'appelles comme tu veux. Tu peux réagir. 06 95 065 026 par SMS. 06 95 065 026. Étant donné que ce studio a été tout modifié, ils m'ont enlevé tous mes CD. Donc, j'ai été récupérer, Carole, un CD assez ancien. Il y a quelques années sur Graphite, on écoutait Broken Back.
I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never taught you many things that I should. There were tar on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you. Feelings is not what I'm the best at. I'll never tell you anything that I should. There were tar on my lips, time to tell you the truth. I've been on the roads now, coming home to my old town. Sweaty smile, this pretty face, thinking of the happiest time. I've been on the roads now, coming home to my old town. Hands in your heart, gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around whenever you hit the ground. I'm looking around now, coming home to my heart.
gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around.
Il est 12h40 sur Graphite 94.9 FM.
Et c'était Broken Back avec Happiest Man on Earth sur l'antenne de Graphite. C'est vrai qu'on écoutait ça il y a quelques années sur
c'est très
sur
sympa.
Notamment dans l'émission Biotine. Mais alors, du coup, j'ai toujours ces CD dans mon sac. Heureusement. Heureusement, parce que sinon, on aurait été un petit peu mal, toi, aujourd'hui. Donc...
c'est ça. Alors, je relance quand même un petit message. S'il y a vraiment des auditeurs qui ont envie de nous contacter, n'hésitez pas. En fait, le matériel a l'air fonctionnel, parce qu'on avait un petit doute quand même.
Oui,
sur...
c'est bon,
et
ça
ça a l'air de fonctionner, donc ne soyez pas timide.
06 95 065 026 06 95 065 026. Vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances d'été. Et vous avez raison, parce qu'on a tous envie d'aller sur ces plages qu'il va falloir réserver 48 heures à l'avance pour avoir ton carré de serviettes.
ce sera plus le cas.
On l'espère, parce que c'est un peu effrayant. Et il y avait deux petites informations qui sont liées un peu à cela. Donc, pas nécessairement la plage, mais plutôt en ce qui concerne la pollution des mers et des océans, et notamment la pollution avec les mégots de cigarettes, qui sont les principaux déchets plastiques retrouvés dans l'environnement et qui peuvent représenter jusqu'à 40% des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée. 40% des déchets sur les plages de Méditerranée, ce sont des mégots de cigarettes. C'est quand même n'importe quoi.
Auxquels vont venir s'ajouter donc les masques et les gants qu'on commence à retrouver déjà dans l'océan. C'est vraiment génial.
Un mégot de cigarette, c'est pas beau. Autant un masque que sur une plage, c'est bleu, c'est blanc, tout ça, ça peut être joli.
Non, je rigole évidemment.
En fait, il y a, c'est un chiffre toi, que je ne connaissais pas, 6 000 milliards de cigarettes fumées dans le monde par an.
Wow.
Alors bon, ça commence à baisser, hein. Mais bon, ça fait quand même beaucoup, et ça peut produire plus d'un demi-million de tonnes de mégots qui sont rejetés dans l'environnement. Mais rejetés dans l'environnement, c'est-à-dire on n'est pas dans une poubelle, c'est vraiment je balance ça à l'extérieur. Et le problème, c'est que ces mégots sont composés principalement de matières plastiques qui sont très faiblement biodégradables. En plus, ça contient des nombreux composés toxiques qui sont issus de la combustion et qui peuvent menacer les organismes vivants. Pourtant, eh bien, on connaît actuellement très peu de choses sur le devenir de ces mégots, notamment dans les écosystèmes marins, et on a très peu d'éléments sur leur impact sur la faune et la flore marine. Donc, il y a eu des chercheurs qui se sont rejoints pour travailler sur ce dossier-là. Des Français, l'Institut méditerranéen d'océanologie, des Tunisiens, avec l'Institut national des sciences et technologies de la mer, ils ont travaillé ensemble et se sont donné comme objectif d'évaluer l'impact des mégots de cigarettes sur la diversité des micro-organismes et la libération des métaux dans cet environnement marin. Et ils ont travaillé notamment dans l'environnement marin de Tunisie. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les mégots de cigarettes augmentent les concentrations en fer, en manganèse et en zinc dans le milieu marin. Des gens ne pensaient pas à tout ça, quelque part. Il y a des métaux qui sont libérés dans l'eau. Et ça contribue également à l'acidification de l'eau de mer. Alors déjà, c'est pas très bien folichon en ce moment, ça en rajoute. Ça modifie la composition des bactéries qui sont présentes également, notamment en surface. Ça va favoriser le développement de bactéries qui sont généralement connues pour vivre dans des sites un petit peu profonds, sous-marins, assez profonds. On l'appelle les fumeurs noirs. Et bien du coup, on est en train de modifier tout l'écosystème. Ça aura un impact également sur la biodiversité. Et donc c'est la première fois... Alors, on a l'impression que cet article, qui est récent et qui a été relayé par Futura Science, nous apprend des évidences. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'avait pas encore étudié l'impact des mégots de cigarettes sur les milieux marins. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Arrêtez de balancer vos mégots sur la plage. Je vois même pas l'intérêt. C'est de la feignantise.
Surtout que maintenant, il y a des poubelles. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Des cendriers de poche.
Oui, mais Carole, la poubelle est toujours trop loin.
Ah oui, enfin, un cendrier de poche... Après oui, bon. Bah,
un cendrier de poche avec un slip de bain, tu me diras comment tu fais.
Tu as au moins un sac. tu as sac avec ta serviette, je ne sais pas.
C'est une question d'éducation, Carole. C'est pas la première fois qu'on en parle, et même sur les plages, donc faites attention. De quoi nous parles-tu ? Je te parlerai ensuite d'un robot tortue, hein, après.
Très bien.
Ça s'appelle du teasing.
Parfait, j'ai hâte.
Moi, je
reviens sur une thématique et un sujet que j'adore. Je parle souvent de fossiles, de dinosaures, de paléontologie. Et donc là, je vois cet article relayé, donc les informations relayées par Science et Avenir au mois de juin, avec donc un cerveau de dinosaure qui a été reconstitué en 3D. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Un nom encore très facile à prononcer. Donc, ce dinosaure, il s'appelle Bisectipelta archibaldi. Et c'est ce qu'on appelle un ankylosaure. Il ressemblait en fait à un espèce de gros tatou. Je vous laisse un peu imaginer. Vous pouvez chercher sur Internet. Qui vivait il y a 90 millions d'années dans la région de l'Ouzbékistan. Pareil, on voyage un petit peu, l'Ouzbékistan. Et en fait, plusieurs fossiles, dont des parties du crâne, ont été retrouvés à côté de la ville de Dzarakudouk dans les années 90 et au début des années 2000, en compagnie de nombreux fossiles d'autres dinosaures, de reptiles et de mammifères, ont été conservés à l'Institut zoologique de l'Académie russe des sciences. Puis, ils ont été transférés à l'Université de Saint-Pétersbourg pour cette recherche qui a permis de reconstituer une partie du cerveau donc de cet ankylosaure. Alors, plutôt que de cerveau, il faudrait en fait parler d'endocaste, un moulage virtuel de la cavité interne du crâne donnant des informations sur la configuration externe du cerveau et sa structure interne. Ces endocastes sont largement utilisés pour étudier les crânes des espèces disparues. Pour réaliser celui de Bisectipelta archibaldi, les paléontologues ont étudié au scanner les fragments de crânes retrouvés lors des différentes campagnes de fouilles. Puis, ils ont planché pendant 3 ans sur la modélisation de l'intérieur de la boîte crânienne en se basant sur les orifices et les empreintes laissées par les vaisseaux, les nerfs, les hémisphères cérébraux sur la face interne de la calotte osseuse constituant le crâne. Au terme de cette recherche, les scientifiques ont un meilleur aperçu du cerveau de cet ankylosaure. Et la première nouvelle, c'est déjà qu'il est ridiculement petit, à peine 26,5 grammes, soit la taille de 2 noix pour un animal qui mesurait quand même 3 mètres de long. Donc quand je parle d'un tatou, c'est quand même là d'être un grand tatou. Moi, j'ai surtout vu en fait des images de la reconstitution justement du cerveau. Alors, la plus grosse partie de ce cerveau, elle était occupée par des bulbes olfactifs qui constituent environ 60% de la taille des hémisphères cérébraux. Donc ça veut dire que le dinosaure était doté d'un odorat extrêmement développé, ce qui l'a probablement aidé à rechercher de la nourriture ou des partenaires sexuels. Et surtout à appréhender l'approche de prédateurs. Puisque l'animal étant très lourd, il se déplaçait forcément assez lentement. Ses capacités olfactives se rapprochent de celles du T-Rex, qui était sans doute encore plus performante avec des bulbes olfactifs occupant 65 à 70% des hémisphères cérébraux, donc dans le cas du T-Rex. Alors, les biologistes écrivent dans la revue Biological Communications qu'ils ont réussi à examiner l'oreille interne de Bisectipelta archibaldi. Son anatomie suggère qu'il avait l'ouïe d'un crocodile. Alors, j'aime beaucoup les comparaisons. C'est-à-dire qu'en fait, il l'entendait dans une gamme de fréquences comprise entre 300 et 3000 Hz. Ce sont des fréquences assez basses qui correspondent à la taille relativement importante des ankylosaures. En effet, hein, plus les animaux actuels sont grands, plus ils émettent et entendent des sons à basse fréquence. Une autre caractéristique rapproche Bisectipelta du T-Rex, c'est la présence d'un vaste réseau de veines et d'artères qui se croisent comme dans un réseau de chemin de fer. Ce système circulatoire à courant croisé, en fait, il est connu chez les reptiles dits diapsides, comme les crocodiliens, les lézards, les serpents, où il semble jouer le rôle d'un thermostat permettant de répartir la chaleur dans le corps. Une même mécanique est présente chez le T-Rex, qui possède en plus 2 fenêtres dorso-temporales, des trous au sommet du crâne qui facilitent la déperdition de chaleur. Donc l'équipe envisage maintenant d'appliquer la même méthode pour étudier les crânes d'autres ankylosaures, et ils sont également en train de réaliser des moulages endocrâniens d'adrosaures, des dinosaures à bec de canard dont l'anatomie est très différente. Donc c'est assez fascinant de voir qu'à partir de ces fossiles, maintenant on arrive à aller jusque là et à en déduire du coup tous ces éléments sur la morphologie, toute la structure interne du cerveau de ces dinosaures et donc également toutes les interactions qu'ils avaient avec leur environnement.
Parfait, merci Carole, je suis en train de remettre les boutons.
Petit problème technique.
C'est un petit problème technique. Je te parlais donc de tout à l'heure de la pollution marine avec les mégots de cigarettes. On reste dans cette même thématique parce qu'on sait très bien que c'est un problème sérieux, parce qu'on a tous vu ces espèces, on va parler presque d'îles, quelque part, de plastique, un peu le sixième continent,
bah oui.
Qui se forme dans les océans. Eh bien, il y a un groupe d'étudiants de l'ESTACA, c'est l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Ils ont décidé, donc une équipe française, ils ont décidé de s'attaquer à ce problème de la pollution marine en créant un robot tortue qui parcourt l'eau, notamment au niveau des ports, et qui avale le plastique. C'est le projet Green Turtle, la tortue verte, bien sûr. En fait, ils ont choisi de s'inspirer de la tortue afin de pouvoir l'implanter donc, dans les zones portuaires. C'est là où provient quand même une bonne partie de la pollution humaine. Et cet animal marin, il est très agile dans l'eau, il peut aussi faire du surplace, et ça va lui permettre de pouvoir traquer les déchets, et ça va lui permettre, comme il est agile, de pouvoir éviter les bateaux. Donc ils se sont dit, on va un petit peu s'inspirer de cet animal. C'est pas la première fois qu'on fait un mimétisme avec ce qui se passe dans la nature, et donc là on a donc choisi la tortue. En plus, la tortue n'a pas de prédateurs, notamment dans ces zones portuaires. Donc au moins, on est tranquille, ne sera pas bouffé. Et surtout, il n'y a pas non plus, je dirais, une interaction, une perturbation avec la faune locale. Donc du coup, il peut travailler tranquillement sans être perturbé et sans perturber les autres également. Donc quelque part, c'était un très bon compromis. Ils ont donc choisi la tortue. C'est un robot qui va s'appuyer sur les ondes acoustiques pour identifier son environnement et les différents obstacles. Bref, on est dans un système de sonar. Alors, plus précisément, dans un système de lidar, c'est-à-dire que ça va utiliser aussi la lumière. Donc, d'un point de vue technologique, c'est assez élaboré.
Je reparlerai d'ailleurs du lidar dans une prochaine émission.
Ah bah écoute, oh là là, mais quelle impatience, mais vais-je pouvoir attendre, elle va nous parler du lidar. Et Green Turtle est capable de récupérer jusqu'à 50 litres de déchets. C'est quand même pas mal, 50 litres de déchets, parce que c'est une tortue. Alors vous pouvez suivre sur la page Facebook des étudiants ce projet. Vous avez peut-être vu des images il y a quelques jours, parce que ça commence à bien communiquer. Et 50 litres de déchets, c'est l'équivalent de 1400 bouteilles en plastique.
Non, mais je trouve que c'est quand même. Donc c'est quand même pas mal.
Mais ne sous-estime pas le travail de ces étudiants français qui ont donc trouvé un système assez ingénieux, et tellement ingénieux que quand Green Turtle a mangé toutes ces bouteilles en plastique, eh bien il va retourner tranquillement Green Turtle à sa station d'accueil. C'est un petit peu comme ces aspirateurs, ça épouse, là, puis hop, ça revient à sa base. Et bien lui, c'est
oui,
pareil.
Les robots aspirateurs.
Il a compris que il est plein comme une outre, hein, presque. Et du coup, il doit essayer de déverser tout ce qu'il a mangé. Donc, il est malin. Parce que, après tout, il aurait pu manger toutes les bouteilles en plastique. Puis quand il est plein, il déverse tout en plein milieu de l'océan. Eh bien non, il retourne chez lui. Et il retourne à sa base. Et puis en même temps, il va aussi recharger ses batteries. Donc tout ça est ingénieux. Et le problème, c'est effectivement le fait que ça devait être prévu pour un lancement en septembre 2020. Il y a eu des retards pour les raisons évidentes de pandémie. Et les étudiants espèrent aboutir à un modèle fonctionnel pour l'été de l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un beau projet. Bravo les étudiants de l'ESTACA, École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, pour Green Turtle.
Génial. Bah en tout cas, je remarque qu'on essaye de trouver de plus en plus de solutions pour le collecter, ce plastique. Ce serait bien d'arrêter de le jeter dans un premier temps.
Et j'en demande trop.
Ensuite, en effet, il faudrait le retirer des océans. Donc ça va dans le bon sens.
Je respire un petit peu. Enfin, je suis soulagé par le fait que je n'ai pas dit de grosses bêtises ou de choses un peu scabreuses, parce que ta maman nous envoie un message, Carole, en nous disant qu'elle apprécie l'émission. Donc c'est très gentil. 06 95 065 026. Ça va, j'ai tenu le coup. Il te reste 7 minutes, Carole. Je ne dis plus rien, comme ça je ne suis sûre de ne pas dire de bêtises.
Tu peux participer? Non, si tu en es capable. Alors, je reste dans la thématique environnementale pour parler de l'intensification des cyclones tropicaux qui visiblement accélérerait l'un des plus grands courants marins du monde. Parce qu'on a parlé, on en parle souvent dans l'émission, on revient souvent là-dessus, surtout les changements climatiques qu'on peut déjà percevoir, la fonte des glaces, la montée des eaux. Bon, c'est lié évidemment, et justement après toutes les conséquences possibles de ce réchauffement. Alors, au cours des dernières décennies, l'augmentation de l'activité des cyclones tropicaux dans le Pacifique Ouest a visiblement renforcé en fait le second plus grand courant marin du monde, qui s'appelle le Kuroshio, donc c'est japonais comme nom. Une découverte détaillée dans une étude qui est parue récemment fin mai dans la très sérieuse revue Science. Alors, il y a eu précédemment une étude qui faisait état d'une multiplication des cyclones tropicaux de forte intensité au cours des 40 dernières années. Et c'est une conclusion qui est en accord avec la théorie et les résultats obtenus, justement, là, par de précédents travaux dans cette nouvelle publication. Alors, bien que la quantification de ces cyclones reste difficile, il est désormais clair qu'une partie de la hausse observée est attribuable au réchauffement climatique. Alors, une distorsion de la statistique des phénomènes cycloniques, c'est-à-dire au niveau de leur intensité, de leur trajectoire, peut induire des changements additionnels dans le système climatique, en particulier en ce qui concerne le couple océan-atmosphère. Dans une étude parue le 29 mai, des chercheurs ont justement mis en avant un tel mécanisme dit de rétroaction. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont analysé les données climatiques de la zone ouest-pacifique et ils ont découvert un lien entre l'intensification observée des typhons à l'est de Taïwan et la vigueur justement de ce courant marin, le Kuroshio. Ce dernier se présente un peu comme le petit frère du Gulf Stream qu'on connaît très bien. En effet, il s'agit d'un courant de bord ouest véhiculant de l'eau chaude des tropiques vers les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et alors, selon cette étude, la modification des phénomènes tropicaux dans le secteur a fait que le Kuroshio s'est renforcé. Néanmoins, ce renforcement n'est pas une simple accentuation de l'écoulement moyen. Depuis les années 1960, les océanographes savent que la majeure partie de l'énergie de mouvement est contenue dans des tourbillons à mésoéchelle. De l'ordre de la centaine de kilomètres, ils sont souvent présentés comme les analogues océaniques de nos dépressions et anticyclones atmosphériques. Les auteurs expliquent que l'évolution donc de ce courant se comprend comme une hausse de l'énergie contenue dans les tourbillons cycloniques et, à contrario, une baisse de celle des tourbillons anticycloniques. On commence à percevoir ce qui se profile. Comme les premiers, donc les tourbillons cycloniques, ont tendance à stimuler le transport de chaleur vers le nord, celui-ci s'est donc accru. Ainsi, les typhons bénéficient d'un apport supplémentaire d'énergie dans la zone, ce qui tend à renforcer encore plus le courant. Plus précisément, on parle de rétroaction positive, au sens où en fait la perturbation initiale induit une boucle de retour qui amplifie la dite perturbation. Alors, cela agit en opposition à la diminution de la tension liée au vent à l'échelle du bassin et cela a un impact réchauffant potentiellement important sur l'océan et le climat de la zone extra-tropicale. C'est ce que rapporte en synthèse la publication. Malgré une baisse d'environ 30% des vents moyens, le courant n'a pas diminué en intensité. C'est de cette observation apparemment contre-intuitive que découle le travail réalisé dans l'article. Et enfin, les résultats obtenus appellent à vérifier si une telle mécanique existe également au niveau du Gulf Stream. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte, même si ça a l'air encore en effet assez dur à quantifier, qu'il y a une augmentation des phénomènes de cyclones, de typhons. On voit aussi qu'il y a d'autres choses qui ont l'air d'être vraiment guidées par le réchauffement climatique. Et donc là, en plus, on voit que ça aurait tendance à s'amplifier, c'est-à-dire que d'une part, les océans vont se réchauffer et d'autre part, ces phénomènes de cyclones vont s'accentuer, entraînant les dégâts qu'on connaît.
Oui, on a l'impression qu'on est dans une spirale et on ne s'en sort pas, en fait.
Mais parce que, encore une fois, il faudrait faire des choses beaucoup plus significatives pour avoir un réel impact sur ce réchauffement.
Mais moi, on m'avait dit qu'après l'épisode du coronavirus, on aurait un nouveau monde et que tout irait mieux. C'est fou, en fait, on m'a dit des bêtises.
Apparemment.
Ou alors je suis d'une naïveté confondante.
Oui, alors après, c'est que je pense qu'on en rêve tous un petit peu. Après, à nous de le construire.
À nous de le construire, mais toi, cette information, elle est en corrélation avec ce que l'on dit assez régulièrement dans cette émission. Enfin, on a très souvent ce genre d'informations sur un aspect différent, mais qui se complètent en fait et qui prouvent que c'est mal parti. C'est mon côté pessimiste. C'est
voilà, on finira sur cette note positive. Merci de nous suivre.
Pour bien plomber l'ambiance, c'est ça.
Oui.
Non, mais effectivement, on l'a toujours dit, il va falloir un moment se ressaisir. Enfin, il faut se dépêcher, peut-être, je ne sais pas.
Oui, parce que, alors, j'ai plus l'échelle, mais en tout cas, s'il y a une réaction assez forte dès maintenant, il est encore possible, je crois, en l'espace de 30 ou de 50 ans, d'améliorer les choses. Après, voilà, il va falloir choisir la bonne direction.
Et oui, on sait laquelle il faut choisir, effectivement. Merci Carole pour un petit teasing de la semaine prochaine afin de nous permettre de retrouver derrière leur écran. Je ne sais pas s'ils nous écoutent sur Internet ou sur la bande FM. Caroline et Anaïs, faudrait peut-être leur dire le programme de la semaine prochaine.
Alors, on parlera à nouveau d'espace puisqu'il y a d'autres nouvelles concernant SpaceX qui justement est de retour pour de nouveaux tests. On parlera de ça. Et évidemment, Jean-Noël, je ne manquerai pas de parler des animaux. J'adore aussi cette thématique. Et on parlera notamment du renard.
Et moi, je te parlerai du bourdon. Tu me parles des animaux.
Ah, génial.
Ça fait toujours rêver de parler du bourdon. Et cette information médicale qui est aussi extraordinaire, on a parlé de la peau tout à l'heure. Un œil bionique, c'est une première, a été créé pour retrouver la vue. C'est extraordinaire. On parlera de ça la semaine prochaine. Et comme tu m'as dit aujourd'hui, y a un tel et un tel qui m'écoutent, ne parle surtout pas de cette sucette électronique qui permet de créer n'importe quel goût. C'est vrai que c'est totalement... Ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir de voir que des chercheurs ont passé du temps à créer une sucette électronique qui s'adapte à tous les goûts.
Ils ont été confinés, ils s'ennuyaient un petit peu, c'est ça?
C'est possible.
Je ne sais pas. Non, ça datait d'avant. Hein. Je crois que là, ça datait d'avant en termes de découverte.
Tu leur demanderas peut-être. En plus, ce sont des Japonais et on n'aurait pas cru ça de leur part. 06 95 065 026. Merci à ceux qui nous ont envoyé donc des petits messages.
Oui, merci beaucoup, ça fait plaisir.
Par SMS, ça fait plaisir. On se sent moins seul, bien sûr. On se retrouve samedi prochain pour continuer à feuilleter le grand livre de la vie et de la science sur l'antenne de Graphite, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité de récupérer les podcasts et aussi sur le 94.9, sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. On se retrouve samedi prochain, Carole.
Oui, à la semaine prochaine, Jean-Noël.
Très bien, bien, repose-toi bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites attention, ça n'est pas fini mes enfants, faites gaffe. À bientôt, à samedi prochain, au revoir.